La guerre vue d'ici, la participation gaspésienne à la Deuxième Guerre mondiale. La dernière fois qu'on s'est parlé, Félix Fournier, mon historien préféré, on était au débarquement de Dieppe. Winston Churchill venait de faire un discours qui était porteur d'espoir. On pouvait voir justement la lueur au bout du tunnel pour les Alliés, parce que pour les ennemis, c'était peut-être un peu moins ça. On est rendu en 1943, où on en est dans cette Deuxième Guerre mondiale.
La partie importante du début de 1943, c'est la fin de la campagne d'Afrique du Nord. On en parlera peu parce qu'il y a presque aucun Canadien qui est impliqué et aucun Gaspésien. Je pense qu'il y a des gens du Bas-Saint-Laurent qui étaient pilotes d'avion dans cette campagne-là. Qu'est-ce que c'était l'Afrique du Nord? C'était vraiment, comme on a parlé la dernière fois...
Du canal de Suez,
qui était la porte de la Méditerranée. Mais là, les troupes de Montgomery, un super général anglais que j'aime beaucoup parce que c'était un général qui... était peu aimé des autres, mais beaucoup de ses soldats, parce que c'est quelqu'un qui préservait beaucoup ses hommes. Donc, ils se résorbent tranquillement, ils reviennent vers la Tunisie, ils font une poche. C'est la fin de l'occupation. Avant cette fin-là, les Alliés, notre ami Winston Churchill, ainsi que Franklin Delano Roosevelt, se rencontrent en janvier 43. Commence 43 sur une bonne note à Casablanca, au Maroc, et...
Il y a pire comme endroit pour se rencontrer.
Oui. Mais disons qu'il y avait comme beaucoup moins de chances que tu puisses te rencontrer en Europe, sur l'Europe continentale, quand tout était occupé. Ça fait que de cette rencontre, qu'est-ce qu'on en tire? C'est que les Alliés mettent les grandes lignes de ce que va être la fin de la guerre. Déjà, ils voient...
On est déjà rendu là pour eux, puis on est seulement à mi-parcours. C'est maintenant qu'on le sait, mais eux le savaient pas à l'époque.
Qu'est-ce qu'ils décident? Ils décident d'exiger la reddition sans condition des puissances de l'Axe.
Donc, l'Allemagne, le Japon et la Russie? L'Italie! Faut que je revoie mon cours d'histoire, hein?
Ils continuent l'aide à l'Union soviétique parce qu'ils envoient beaucoup, beaucoup de matériel en Union soviétique, les Alliés. Le Canada va envoyer des radios. J'ai eu la chance de voir ça une fois dans ma vie. C'était magnifique. Des radios, il y avait la version canadienne en anglais, puis il y avait la version russe du même modèle en cyrillique dans la langue.
Okay.
Écrit, les inscriptions sont en cyrillique, donc en russe. Et ensuite, on dit aussitôt que c'est la fin de la campagne en Afrique du Nord, on commence l'invasion d'Italie.
Qui est quand même proche aussi de ce secteur-là.
Exactement, on veut déplacer les troupes américaines. Eux vont faire le bond vers l'Italie, parce qu'il va y avoir les troupes américaines. Là, dans la bataille en Méditerranée, vont entrer en jeu les Canadiens et aussi... plein de Gaspésiens qu'on connaît, certains qu'on connaît, d'autres qu'on va apprendre leur nom.
Oui, parce que tu as fourni quand même une liste assez impressionnante de Canadiens et de Gaspésiens qui ont participé.
Je peux pas te donner le nombre exact, mais j'ai le nombre exact, malheureusement, de soldats gaspésiens qui sont enterrés en Italie. Pour commencer, mon favori, on va parler de M. Émile de Seller.
Ah oui, c'est lui qui veut vraiment aller en guerre, mais... précisément dans les îles Jerseyaises.
Exactement, Jersey Guernsey, parce qu'il est un descendant d'un Le Seller qui était né à Jersey. Je pense que c'est son grand-père ou son arrière-grand-père.
Il a déjà fui Hong Kong et une autre place, si
il
je m'abuse.
Il a fait un peu de prison militaire pour ne pas avoir participé à Hong Kong. Il était dans le régiment des Voltigeurs de Québec. Et ce régiment-là va être démembré.
Dans le sens qu'on le... pas physiquement, là.
Non, exactement. Parce que oui, effectivement, en temps de guerre, on pourrait croire.
Oui, c'est ça.
Mais ils vont être rattachés au Royal 22e Régiment.
Qui est québécois.
Le Régiment culte. D'ailleurs, on vous fera une petite parenthèse plus tard là-dessus, sur ce que c'est le 22e Royal Régiment. Bien connu chez les francophones comme le Régiment. Mm. Et aussi chez les anglophones, qui l'appellent affectueusement le 22.
22, ah oh oui, 22.
22.
22.
Première fois que j'ai entendu ça, j'avais pas compris. J'ai dit, monsieur, est-ce que vous pouvez... Yeah, yeah, the 22 in Quebec.
Le vin doux, c'est peut-être ce qu'on buvait beaucoup aussi dans ces régiments-là.
C'est ce qui va arriver dans la campagne d'Italie. On le verra plus tard. Donc, c'est ça, M. Le Seller se retrouve, manque d'aller avec le Royal 22e Régiment et participer à la campagne d'Italie. Il ne veut pas.
Ben non, il veut aller aux îles.
Qu'est-ce qu'il fait? Il se fait transférer dans le Royal Regiment of Canada en mentionnant qu'il parle maintenant assez bien anglais pour être dans un régiment anglophone.
Est-ce que c'était vrai?
Je crois que oui. Il vivait quand même un lance-griffon. Il devait avoir quand même côtoyer des gens avec un certain niveau. Puis ça fait quand même quelques années qu'il stationnait en Angleterre. Et qu'il se fait transférer. Son officier lui demande mais quel est ton nom? Il dit Émile Le Seller. Fait qu'il fait what? Il dit que durant toute la guerre, personne n'a jamais vraiment été capable de prononcer, les anglophones n'ont pas été capables de prononcer son nom.
Et pourtant, Le Seller, je trouve que ça fait un peu anglophone.
Le Sealer.
Le Sealer.
Probablement. Et son prénom était Émile, et c'est un nom qui était souvent porté par les Allemands.
Ah oui?
Émile.
Donc, ben, est-ce que tu sais, petite note à part, j'imagine que c'est vrai pour le prénom Émile, mais Émilie, qui est mon nom, en allemand, ça veut dire rusé. C'est peut-être pour ça que les Allemands aiment ce nom.
Aiment ce nom. Je n'étais
tu
point
peux
au
confirmer.
Courant. Je n'étais point au courant, je vais te croire sur parole.
T'es mieux.
Donc, il devient Hem pour le restant de EM pour le restant de la Deuxième Guerre mondiale dans le régiment des Royal.
On parlait de James Bond dans le dernier épisode. Ça me fait penser un peu à comment on appelle les dirigeants M ou Z ou tout ça. Donc, M, ça fait espion un peu, on dirait.
Et, petite devinette, comment gagner un mécanicien de classe A par jour durant la Deuxième Guerre mondiale?
Sûrement pas assez pour le risque.
Monsieur Le Seller était très heureux parce que depuis qu'il était classe A, il avait augmenté de 50 sous par jour, fait qu'il gagnait 2,25 $.
Ce qui devait quand même être beaucoup pour l'époque.
Moi, ce que j'ai lu, la majorité des soldats gaspésiens envoyaient une très grande partie de leur solde à leur famille en Gaspésie.
Ben, ils devaient pas pouvoir beaucoup le dépenser non plus sur le front.
Directement, non, mais c'est parce que surtout que tu avais comme des permissions, tu pouvais sortir, puis là, tu avais besoin d'un peu de liquidité.
Okay.
Parce qu'il fréquentait quand même beaucoup les pubs en Angleterre.
Ah, c'est pas pour rien qu'ils sont si populaires.
J'ai lu à quelques reprises que certains fréquentaient les pubs.
On fait bien des blagues, mais quand même sur une note un peu plus triste. Avant le début de la campagne en Sicile, en Italie, il y a des soldats gaspésiens qui n'ont même pas eu le temps de se rendre et qui sont morts.
Le bateau Davis va être coulé dans la Méditerranée le 5 juillet 1943 par le U-Boat 593, ce qui va avoir des très grandes répercussions sur l'invasion d'Italie parce qu'il y a 289 soldats qui étaient à bord du navire, mais surtout 4000 tonnes de matériel, nourriture, des véhicules amphibies pour le débarquement. Et
toujours aussi pratique aussi lorsqu'on veut partir de l'eau, aller sur les berges, tout ça.
Exactement. On va le voir beaucoup, ça, pour le débarquement de Normandie. Tous les films du débarquement de Normandie, vous avez les péniches avec le devant.
C'était semblable à ça aussi.
C'était exactement comme ça. L'histoire va beaucoup moins retenir ces débarquements en Sicile et en Italie parce qu'ils ne seront pas sous le feu.
OK, c'est moins spectaculaire, en guillemets.
Les lignes de défense italiennes, on va en parler plus tard, vont être beaucoup plus faibles. Ça va être une autre guerre. Finalement, les Allemands vont les laisser...
Moins d'embûches.
Exactement. Vont les laisser débarquer. Puis après ça, les combats vont venir... Tandis que le principe de la Normandie, c'était que les Alliés ne débarquent pas sur le territoire français.
Ils étaient attendus à ce moment-là.
Donc, c'est ça, nos soldats. Il y a d'autres navires qui vont être coulés aussi avec les véhicules de transport. Ce qui aura pour une très grande incidence, c'est que les gens vont être obligés de porter leur matériel.
T'arrives épuisé déjà avant même d'être sur le champ de bataille.
Mais ils vont se revirer de bord puis ils vont utiliser les camions italiens. Semble-t-il un petit peu moins fiable, car ils n'étaient pas faits par Ferrari. Donc c'est ça, on a trois garçons entre 25 et 21 ans. John Clark, Wilson Annett puis William Banner qui vont décéder le 5 juillet 1943 avant justement le lancement de l'opération Husky qui sera l'invasion de la Sicile.
L'opération Husky, comment ça se passe pour nos Gaspésiens?
Ça se passe très bien parce qu'il y a une résistance qui est très faible au niveau des soldats italiens. Pour plusieurs raisons. Dans la mythologie, il y aurait eu des ententes tacites entre le monde de la mafia et les troupes américaines pour faciliter.
Oui.
Ça, c'est très intéressant. Si vous avez une chance de lire sur Lucky Luciano, vous pouvez avoir plus d'informations sur le sujet. Donc, c'est ça, l'intérêt des Italiens dans la Deuxième Guerre mondiale est depuis quand même relativement longtemps fini. Donc, ils opposent une résistance extrêmement faible. Ils vont traverser la Sicile du 9 juillet jusqu'au 17 août. Donc, c'est relativement court. Qu'est-ce qui se passe là? Ben, c'est le baptême du feu quand même. Il y a quand même des combats, même s'ils sont faibles. Il y a des tirs de barrage.
Il y a sûrement quand même des décès aussi au travers de tout ça.
C'est ça, on a déjà eu les décès avant d'arriver. Les pertes vont être très faibles comparées à ce qu'ils vont vivre plus tard dans la campagne quand ils vont s'attaquer à l'Italie continentale. Les faits intéressants là-dedans, ce que les soldats rapportent, il n'y avait pas beaucoup d'eau. Et c'était extrêmement dangereux de pogner la malaria si on buvait l'eau. Par contre, ils mangeaient beaucoup de raisins et, accessoirement, buvaient beaucoup de vin. Donc, la gourde à eau devenait une gourde à vin.
Ben, tant qu'elle est déshydratée.
L'élément qui est souvent, qui ressort de cette période-là, c'est que les tanks ou les véhicules roulaient sur l'île de Sicile, généraient une craie, une poussière qui était comme une craie, puis les soldats étaient obligés de se mettre des masques. C'est une période pour parler de masques.
Mais oui, les N95.
Qui empêchaient. Non, c'était vraiment du foulard, tout ce qu'ils pouvaient avoir, parce que ça faisait comme une espèce de grosse pâte au niveau de la bouche où s'ils respiraient. Puis c'était extrêmement dur. Cette campagne, comme on dit, est relativement courte. Les soldats canadiens et gaspésiens vont transférer sur les orteils de la botte italienne. Et très rapidement, ça va être l'armistice pour l'Italie. On pense que c'est une bonne nouvelle.
Oui, on pense que c'est la fin.
C'est la fin. C'est plutôt le commencement. Parce que ce qui va arriver, c'est que le 8 septembre, à Casibile, excusez-mon italien, l'armée italienne se rend inconditionnellement aux Alliés. C'est fini pour eux autres.
Mais ils sont pas tout seuls dans cette guerre-là.
C'est là qu'entrent en jeu nos amis allemands. Pas nos amis allemands.
C'est ça. En tout cas, pas dans ce cas-là.
Exactement. Et les Allemands vont rapidement évacuer les parties. Ils se déploieront pas sur l'ensemble du territoire italien.
Comme c'est quand même un bout de péninsule, c'est plus facile, on dirait, de la scinder en deux.
Donc, il va y avoir la ligne Gustave qui va être le premier objectif, qui est à peu près à la hauteur de Naples, pour vous donner une idée. Et il se retranche sur les hauteurs. Parce que l'Italie, c'est une petite plaine avec un monticule rocheux au centre. Donc, si vous êtes en bas,
vous êtes vulnérable.
Il faut que vous montiez pour aller chercher le haut de la montagne. Et c'est là
que le bras de fer se fait.
Ce qui va faire que la campagne italienne va durer près de 26 mois.
26 mois?
Avec une quantité, j'ai les chiffres, on va parler plus tard, mais le nombre de gens qui vont périr dans cette campagne de soldats canadiens, c'est épouvantable.
Et les dirigeants qui pensaient qu'on négociait l'armistice, la reddition tout de suite, c'était un peu trompé.
Il y avait beaucoup misé sur le fait qu'ils ne rapporteraient pas des troupes allemandes du front soviétique. Ce qui aurait fait que l'avancée des troupes canadiennes aurait été beaucoup plus rapide. Par contre, ce qu'ils vont faire, c'est que ça va être la HG Division, la Hermann Göring Division. C'est pas division en anglais, faudrait que je le prononce en allemand, je ne l'ai pas malheureusement. C'est des troupes qui étaient par rapport à l'aviation, mais c'est des soldats entraînés, c'est des troupes d'élite. Et eux, ils vont être versés sur le front. C'est à ce moment que les Gaspésiens et les Canadiens vont trouver le temps extrêmement long.
Ah oui, comment ça? Parce qu'ils sont en attente du combat?
Non, c'est parce que les combats vont être tellement durs qu'ils vont, ils vont développer. Il y a un mot en anglais qui a une version française, mais qui est moins significative, qui est resté de la campagne d'Italie. C'est le « mouse hauling ». C'est-à-dire que, comme les maisons étaient tous contiguës, il fallait avant prendre une maison, perforer le mur de la maison et insérer des explosifs pour faire exploser la maison suivante pour pouvoir avancer dans le... C'est à ce niveau-là. Là. C'était une guérilla urbaine comme il n'y en aura même pas au niveau du débarquement de Normandie puis l'avancée vers le...
Et on dirait que c'est rare qu'on voit un peu ou qu'on entend parler de cet aspect-là de la guerre, justement.
Des témoignages que j'ai entendus des gens
qui ont vécu la guerre.
Qui ont vécu l'ensemble de la campagne d'Italie a été extrêmement dure au niveau physique et psychologique. Les vétérans de la campagne d'Italie étaient souvent ceux qui étaient le plus marqués, je crois. Tom Eden me dirait que c'est les gens qui ont fait Hong Kong, mais ça, c'est... Vraiment, c'est l'impression...
Question point de vue.
Exactement, c'est l'impression que j'ai eue pour les témoignages, les gens qui avaient les plus de séquelles, parce qu'il y en avait quand même plusieurs de mon village, de Grande-Vallée, qui l'avaient fait. Puis c'est eux que je pense qu'il y avait le syndrome post-traumatique de loin le plus avancé par rapport à les gens, même les gens qui avaient fait de la Normandie.
Pendant toute cette campagne de l'Italie, cette bataille, il y a quand même certains moments où ce que les Gaspésiens, certains lieux ont été plus présents. C'est le cas pour la campagne de la rivière Moreau.
Oui, effectivement, on a beaucoup de témoignages. Je suis un peu débordé par les témoignages.
Ça a été dur de faire le tri là-dedans.
Il y avait tellement de choses. Il va falloir faire comme Capsule bonus.
On n'aura pas
le choix. La campagne de la rivière Moreau, c'est une attaque sur la ligne Gustave. Et c'est sur l'Adriatique. D'habitude, on voit tout le temps l'Italie, Florence, Rome, Naples.
De l'autre côté totalement.
Mais de l'autre côté totalement, exactement. Et pourquoi ils se sont retrouvés là, sur la ligne Gustave? C'est que la ligne était fortifiée par les Allemands, puis ils voulaient la contourner pour prendre un revers puis revenir vers Rome. C'était quoi le point faible, on pourrait dire, de la ligne Gustave, dont ils vont s'attaquer là. Pour ce qui est des Gaspésiens, un point super important, une bataille super importante, c'est la Casa Berardi. Et pour la petite histoire, il y a une faille dans l'Abitibi qui s'appelle la Casa Berardi. J'ai pas trouvé, puis il y a une mine installée dessus, qui s'appelle aussi la mine Casa Berardi. J'ai pas trouvé si c'était...
des anciens soldats?
Il y a des fortes chances. Donc, on revient à la Casa Berardi. Il y a un soldat qui est à la tête de cette campagne-là. Pas un soldat, il est capitaine à l'époque. C'est Paul Triquet. C'est un nom qu'on...
on le connaît pas très souvent, on l'utilise pas très souvent, ce nom de famille-là.
Pourtant, il était né à Cabano, pas très loin de la Gaspésie. Il était engagé, c'est ça, dans le 22e Royal Régiment. Puis, c'est ça, le 14 décembre 1943, c'est lui qui est à la tête de l'attaque sur la Casa Berardi. Pour cette bataille-là, il va recevoir la Légion d'honneur de la France, rétroactivement, beaucoup plus tard dans le temps, mais il y a la Croix de Victoria. Il est le seul Canadien français décoré de la Croix de Victoria au cours de la campagne d'Italie. Les soldats, eux, comment ils vont voir ça? Fait qu'on prend un extrait de « Je les ai vus mourir » du Gaspésien Lucien Côté, qu'on avait parlé l'autre fois, oui, qui vient de Sébec, qui lui nous disait « Après la messe, le colonel Bernacchi s'avança pour nous entretenir de la bravoure, de la combativité des soldats canadiens français, et surtout celui qui faisait partie du Royal 22e Régiment. » Il nous parlait aussi de la gloire des batailles antérieures et de la chance que nous avions de participer à ces combats, qui feraient pâlir d'envie les héros d'antan. Belle perspective. Alors comment ne pas se douter que ce que nous entendions était un lavage de cerveau? Les troupes vont attaquer la Casa Berardi. On a aussi un Gaspésien de Rivière-Ornard qui a participé à cette attaque, qui s'appelle Willy Tapp. Et ce que je vais vous lire, c'est des propos qui ont été colligés par Denis Paradis. Et ça a été publié dans le magazine des juges du Québec.
Denis Paradis, qui est maintenant juge lui-même.
Donc, pour notre ami Willy Tapp, qui était natif de Rivière-Nord, soit dit en passant, lui nous parle de son expérience dans la Casa Berardi, mais surtout, le fait qu'il avait survécu lui a apporté un carton de cigarettes. Ça fait que le 13 au soir, on prépare à l'assaut de la Casa Berardi, qui aura lieu tôt le 14. Au réveil, mon compagnon me dit « Je sens que ça va être ma dernière, sa dernière attaque. » Ça revient souvent, il y a tout le temps dans les...
On pense qu'on va gagner puis que c'est ce qui est la bataille décisive.
Non.
Ou qu'on va mourir.
Exactement.
Oh!
C'est
plus pessimiste.
Ouais. Willy Tapp lui répond « Non, on se fera pas tuer. » Du haut de la colline, qui était un peu fortifié, pareil, avec les positions sur la position allemande, il y a 85 hommes qui vont partir le 14. Puis il y en a seulement 11 qui vont être encore vivants le lendemain matin à 6 heures. Et là, comme on parlait de Paul Triquet, lui, il reçoit la Croix Victoria. Puis lui, Willy Tapp, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont comme trouvé que c'était... Le taux de mortalité avait été très élevé, fait qu'il critiquait un peu son commandement.
Oui, la tactique qui a été prise.
C'est ça. Pour le soldat Willy Tapp, il rapporte à Paul Triquet, qui était le capitaine, il dit « Lui aura reçu la Croix de Victoria, moi j'aurais reçu mon carton de cigarette. » Puis il va avoir un jugement quand même relativement dur face à Paul Triquet. Puis on est extrêmement chanceux parce que M. Fabien Sinette... que je vais sommairement vous décrire. Monsieur Fabien Sinette, c'est le plus grand amant de l'histoire que j'ai connu dans ma vie. C'est quelqu'un qui a des anecdotes à l'infini. Passer des heures avec, c'est un privilège. C'est le plus historien des non-historiens que j'ai connu. Et il a d'ailleurs écrit un magnifique livre en collaboration avec Monsieur Mario Mimo, qui s'appelle Gaspé au fil du temps, qui est aussi en version anglaise Gaspé Through the Years. Alors, Monsieur Sinette, quand lui était dans les fusils du Saint-Laurent, va être passé en revue par Paul Triquet. Mais avec lui, il y a Pat Adams, qui lui est aussi un Gaspésien, natif de Gaspé, et qui a participé à la bataille de Casa Berardi.
Et ça a été quoi le feeling de M. Sinette?
Mais on l'écoute tout de suite nous expliquer comment il a vécu ce moment-là, cette rencontre.
J'ai rencontré Paul Triquet. C'était au début des années, sans dans les années 51-52. J'étais dans l'armée de réserve, puis il avait venu un soir nous passer en revue. Fait qu'on était tout en lignée pour faire. Fait qu'il passait à chaque soldat, il arrêtait. Puis, ils demandaient leur nom, puis ceux, il y avait quand même beaucoup de vétérans dans l'armée de réserve, puis ceux qui portaient des rubans là, qui représentaient des décorations, et là, ils s'arrêtaient pour leur demander toujours c'est dans quel régiment ou quoi que ce soit. Puis ce type-là, il est à côté de moi, justement. Il dit, moi, j'étais dans le Royal 22e Régiment et j'étais à la bataille de Cazaveredi. Il n'a pas continué la conversation. Je ne sais pas s'il était intimidé, mais c'était un homme, je pense, assez timide. Parce que j'ai rencontré un correspondant de guerre dans les années 60, un nommé Fred Drelin. Et puis, il a été le premier à interviewer Paul Triquet tant qu'il a descendu là, dans l'endroit de Cazaveredi, descendu en montagne. Et puis, il a demandé pour passer une entrevue. Il faut dire, il dit que c'était prêt là, suite à la bataille. Et puis, il ne voulait pas. Il dit non, il dit je ne suis pas prêt à passer une entrevue. Il dit ça m'intimide, puis il dit il faudrait y réfléchir. Bon, ben dans ce cas-là, il dit je vais fermer, parce qu'ils autres, ils transportaient avec les autres un genre d'équipement là, sur leurs épaules, avec tout l'enregistrement. Et dans ce cas-là, je vais fermer mon enregistrement. Fait qu'il a vu qu'il était intimidé. Mais il dit, c'est correct. Il dit, on peut jaser, puis tu me diras c'est quoi tu veux savoir. Mais il dit, il ne l'avait pas fermé. Ça fait qu'il l'avait laissé ouvert. Fait qu'il avait tout eu, l'entrevue intégrale de Paul Triquet. Ça fait que c'est ça qui avait passé sur les ondes à l'époque Radio-Canada. Ça fait que t'as peut-être aussi, je sais pas, peut-être un homme timide. Hein, puis, en tout cas...
Vous vous souvenez du nom de la personne, du soldat qui était...
Oui, c'était Pat Adams de Gaspé. Ouais. Pat était dans le 22e. Il y a une photo qui existe de Pat Adams dans une péniche de débarquement, le 1er novembre. Ouais, il existe de lui. C'est Pat Adams, ça.
Oh,
en Sicile.
En Sicile, ok, il y a ouais. Le débarquement de Sicile.
Ouais. Ah, oui. Puis il était avec nous autres. Il y avait plusieurs vétérans qui étaient dans l'armée de réserve. Hein, parce que ces gens-là ont arrivé à la plupart de 1945. Puis, l'armée de réserve était là. Avait été frité un peu durant la guerre, mais beaucoup qui s'avaient enrôlé volontaire. C'est comme ça qu'on recevait souvent des militaires, nous autres, comme le général d'Extrase aussi, ils nous avaient passé en revue aussi à un moment donné. On en recevait plusieurs comme ça. C'est une expérience de les rencontrer. Hein.
On vient d'entendre un extrait de Fabien Sinette avec qui tu t'es entretenu l'une de vos rencontres nombreuses. Après la prise de la Casa Berardi, la guerre n'est pas finie, il y a encore des batailles en Italie et là on se dirige vers la bataille d'Ortona qui a quand même coûté cher en vie.
Extrêmement cher. Ça va être surnommé le décembre sanglant. C'est une bataille qui va être relativement courte, du 20 au 28 décembre 43, nommée le Stalingrad italien. Il n'y a eu aucune commune mesure entre les deux. Mm-hmm. On parle de 3 millions de morts à Stalingrad. Mais pour les Canadiens et les Gaspésiens...
À leur mesure, ça l'était.
Exactement, parce qu'on parle pour eux. La petite ville d'Ortona contient 10 000 personnes. La Casa Berardi était la clé pour atteindre la ville, d'où l'importance de la balle. Mm-hmm. De ce qu'on vient de parler, il y a 1375 Canadiens qui vont laisser leur vie dans les 8 jours de la bataille d'Ortona. Il va y avoir 964 soldats canadiens qui vont être blessés aussi dans la bataille. C'est tellement un point marquant que le gouvernement du Canada, en novembre 2000, va choisir d'y mettre une plaque au centre-ville dans la place La Piazza Plebiscito pour souligner justement cet effort de campagne.
Pour ceux qui ont perdu la vie, mais également pour les survivants qui ont été à la dure. Il y a plusieurs Gaspésiens qui ont participé à cette bataille et je pense que ce que tu vas nous conter, ça prouve qu'en histoire, il y a toujours quelque chose à découvrir. Et là, le podcast est lancé depuis quelques semaines, les gens en parlent et on t'amène d'autres informations.
J'ai eu la chance d'avoir, par l'entremise du garçon de M. Émile Le Seller, un livre que lui a écrit, mais il avait aussi colligé une partie, une version numérique que je n'avais pas. Et il a colligé des témoignages de gens du secteur entre Lanceavalot et Cap-aux-Aunes, mettons, ou Lanceau-Griffon, de Gaspésiens qui ont participé à la Deuxième Guerre mondiale.
C'est précieux, ça.
C'est un trésor que j'ai eu entre les mains. Là.
On le remercie.
Oui, effectivement. Puis je vais vous parler de Gustave Bernatchez. Gustave Bernatchez était né en 1921 à Rivière-aux-Renards. Il était le fils de Willy Bernatchez et Claudia Curado. Gustave Bernatchez de la bataille d'Ortona, ce qui le marquera le plus, parce que lui, c'est son baptême du feu. Il passe par la Tunisie, puis il est directement envoyé. L'épisode de Casa-Barardi est passé, puis c'est les troupes fraîches qui sont lancées au front. Mais pour eux, le moment triste de ça, c'est que c'est la célébration de Noël, parce que la bataille d'Ortona a lieu entre le 20 et le 28 décembre 1943, et on leur avait promis un repas de dinde.
Oh.
Et finalement, urgence, tout le monde est rappelé, il n'y aura pas de repas et ce sera de la boue. Nous, au lieu du repas de dinde, nous pataugerons dans la boue. Puis, c'était tellement marquant que Willy Tapp nous parle aussi de cette
promesse.
De cette promesse non tenue de l'armée d'avoir son repas de dinde. Mais on peut s'imaginer, ces gens-là sont déjà outre-mer depuis 2 ans.
S'ennuient un peu de la maison aussi, sûrement beaucoup en fait.
Oui, loin de la famille. Puis là,
particulièrement à cette période-là de l'année.
C'est fou comment le fait que ces personnes-là qu'on a vues étaient âgées. T'as des difficultés à les imaginer jeunes.
Mm-hmm.
Mais tu sais, ces gens-là ont 18, 19, 20 ans.
22 ans à peu près là, dans le cas de M. Bernatchez au moment de la bataille d'Italie.
Exactement. Il fait pas partie des vétérans, parce que mais c'est quand même dans la frange jeune là, des soldats qui se sont enrôlés. Là.
Tu nous rapportes beaucoup d'événements qui ont été difficiles, durs à entendre, qui sont crève-cœur. Mais Félix, il y a aussi du beau qui arrive pendant la guerre. Et là, tu as quelques anecdotes pour nous.
J'ai colligé, et il y en avait beaucoup trop, mais j'ai sorti ceux qui me touchaient le plus. Puis il y a M. Willy Tapp qui, lui, mentionne que Termoli, une ville de la côte italienne, lui faisait penser beaucoup à la baie de Gaspé.
La mer près.
C'est ça, l'odeur, l'air salin.
Le côté festif aussi, j'imagine.
Monsieur Charles Bouchard, dont on a glissé mot dans le premier épisode, qui est natif de Chloridum, qui a grandi au Lanceau-Griffon, et qui a écrit, et a colligé ses mémoires lui aussi, dans un livre qui s'appelle « La route de mes souvenirs ». Lui, il nous parle de son arrivée en Italie. Il dit « Finalement, nous arrivâmes en Italie et débarquâmes dans le port de Naples. Un sous-marin coulé nous servit de passerelle entre le bateau et la terre. » Sous-marin allemand, sûrement. « Le volcan Vésuve. »
Qu'on entend souvent parler.
Et oui, qui est la cause de la destruction de Pompéi en 76 après Jésus-Christ, était en éruption. C'était tout un spectacle, surtout la nuit. 2 semaines avant, nous étions partis d'Angleterre habillés en hiver et maintenant nous débarquions dans un climat semi-tropical. Après avoir traversé la ville de Naples à pied, des camions nous conduirent à un endroit nommé Avilino.
Une expérience quand même assez spéciale, si on pense au contexte avec le volcan et la guerre. Ça devait être impressionnant pour quelqu'un qui est parti de la Gaspésie. Petite histoire de famille, peut-être. Wilfrid, qui est le frère cadet de Gustave Bernatchez.
Il s'est enrôlé 1 an après Gustave Bernatchez. Puis, il va rejoindre le même régiment en mars 1944. Mais dans l'armée, vous êtes comme pas supposé être trop près. Il sépare les familles.
Parce que c'est difficile sur le champ de bataille.
C'est aussi plus facile de pas envoyer un télégramme à la mère que les 4 fils sont décédés dans la même attaque. Wilfrid et Gustave, à plus de 6000 km de la maison de Rivière-aux-Renards, se rencontrent par pur hasard dans la campagne italienne, puis ils vont se recroiser quelques fois après durant la période de la bataille.
C'est quand même des coïncidences assez exceptionnelles, les chances que ça puisse arriver.
C'est arrivé à Hong Kong, mais eux, ils étaient comme... Il y avait des frères, mais ils avaient été envoyés les deux à Hong Kong. Ça, c'était vraiment plus comme une espèce de rencontre surprise, mais si on fouillait beaucoup, je suis sûr qu'on en trouverait d'autres.
Quand on parle d'anecdotes comme ça, qui sont quand même heureuses, des frères qui se retrouvent, des beaux paysages, on dirait quasiment qu'on fait un peu l'apologie de la guerre, mais c'est pas ce qu'on essaie de faire avec ce podcast-là. On essaie surtout de rendre hommage à ceux qui ont participé à la guerre, qui se sont dévoués et qui n'avaient pas nécessairement... c'est pas eux qui l'ont commencé, cette guerre-là.
Non, puis il y a un élément de mémoire qui, moi, me plaît beaucoup, beaucoup plus que... Parce que moi, je suis ni militaire, ni de...
T'es très pacifiste.
On ne peut plus. On est dans un moment charnière, je crois, parce que, on voit ces gens-là, ces vétérans-là mourir, il en reste peu. Je crois que c'est, pour nous, Gaspésiens, c'est un temps, justement, de revenir sur ce moment-là qui est la participation gaspésienne, puis d'en colliger le bon et le mauvais, tu sais, d'arriver et de le faire sortir, et que les générations futures puisse avoir une idée de ce que c'était. Beaucoup plus que...
De montrer les hommes qui étaient derrière, justement, les soldats derrière cette guerre-là.
C'est ça, on voit beaucoup d'uniformes, on a beaucoup de chiffres, de gros chiffres comme...
On voit souvent toute la troupe, en fait, de soldats, mais jamais la personne seule. Évidemment, faire la guerre à un moment donné ou à un moment ou l'autre, ça devient très difficile sur la santé, que ce soit physique ou psychologique. C'est le cas de nos Gaspésiens aussi.
Oui, on a M. Charles Bouchard qui décrit les marches forcées qu'il avait à faire parce qu'il dans un déplacement de troupes, parce qu'il n'y a pas tout le temps des... On voit beaucoup la Deuxième Guerre mondiale comme une guerre motorisée.
Avec des tanks et tout ça.
C'est ça. Mais il y avait beaucoup plus de chevaux et il y avait beaucoup de soldats à pied qui vont parcourir sur l'ensemble des milliers et des milliers de kilomètres. Donc, M. Bouchard part pour une marche de 200 000 où ils vont marcher à peu près 25 000 par jour.
Ouh!
Il dit sous un soleil de plomb qui faisait qu'on était incapable de toucher à nos casques de métal.
On pourrait se faire cuire un œuf dessus.
Ou dedans.
Plus pratique.
Puis, ils viennent en contact avec la malaria, qui est une maladie semi-tropicale. C'est sûr qu'en Italie, on est quand même assez au nord par rapport à ça, mais...
Il y a tellement de mouvements aussi sur le terrain qu'on transporte sûrement des virus aussi.
Ça, puis ils mentionnent que c'est extrêmement dur parce qu'ils traversent des ruisseaux, puis on peut pas boire. Il faut attendre absolument d'avoir des camions-citernes qui ravitaillent en eau. Puis ils donnent ce qu'ils appellent le magrépine contre la malaria. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de soldats gaspésiens et autres Canadiens qui vont participer à la, ou autant américains, qui vont participer à la campagne d'Italie, qui vont attraper la malaria.
On en revient aussi pour toujours changer lorsqu'on est exposé comme ça aussi, presque tous les jours, à de la violence.
C'est un effet physique, comme on vient de voir, les maladies, mais c'est aussi très dur psychologiquement. Puis M. Lucien Côté a un extrait dans son livre qui est vraiment très, très dur puis qui exprime, je pense, bien l'état d'esprit après une longue période au combat. Il mentionne « Nous avions le regard des meurtriers. Normal, ça faisait 6 jours que nous cherchions qu'à tuer. Nous avions certainement l'air d'hommes préhistoriques. Ils devaient nous prendre pour des fous. Nous l'étions aussi. Sans erreur possible, la gourde de vin aidant. La surexploitation de la violence et l'omniprésence de la mort provoquaient détresse et angoisse, elle-même accentuée par l'éloignement et l'épuisement nerveux. Certains succombaient à la colère, voire à un excès passager de folie meurtrière, engendré par le désir de sauver l'honneur de l'unité, devenu une sorte de personne morale ou tout simplement un camarade tombé. » On a mentionné souvent qu'il n'y avait pas d'aide psychologique,
ouais.
Mais il y avait une prise de conscience parce que...
Mais est-ce qu'il y a des gens, des spécialistes, des docteurs, des psychologues à la limite qui se sont rendus compte des traumatismes que les soldats pouvaient avoir déjà sur le terrain?
C'est vraiment le début. Parce qu'il y a des notes, je suis tombé sur une note justement dans un écrit qui était contigu à M. Lucien Côté, dans lequel il y a un médecin qui dit « là, il y a une épidémie de meurtre parce que les... Il y a beaucoup trop d'alcool, les gens ont des armes, les soldats ont des armes, puis ils vont s'entretuer entre eux dans les... Puis
en camarades, là.
C'est ça. Il va y avoir beaucoup de suicides ou de gens qui vont faire des compétitions puis se briser les os là, dans des défis extrêmes. Lui, déjà en 45, voit les séquelles psychologiques. Et ça, c'est bien sûr que dans la deuxième moitié du 20e siècle, il va avoir une vraie prise de conscience sur tous les dommages qui vont être au niveau de la santé mentale chez les gens qui vont participer à des batailles comme ça.
Parce que ça a été un gros combat pour les vétérans de faire reconnaître tout ça. Il y a eu beaucoup de batailles et il me semble qu'il y a quelques années, on parlait beaucoup de ça, de reconnaître ces traumatismes-là pour nos vétérans.
Et comme l'armée est faite pour aller attaquer d'autres personnes, foncièrement, c'est pas... Juste l'idée d'approuver l'idée du stress post-traumatique était peut-être dans l'idée de l'état les dirigeants de l'armée, que c'était comme une forme de fissure dans le salage de ce qu'ils portent justement. Les militaires.
C'était vu comme une faiblesse, ce qui n'est pas le cas.
C'est juste des êtres humains normaux exposés à des situations qui sont complètement anormales. Mm-hmm.
L'un des Gaspésiens qu'on a nommé un peu plus tôt a participé à une bataille, lui aussi, dans cette bataille d'Italie. C'est la bataille de Monte Cassino, qu'on dit en italien, le Mont Cassin, et c'est Willy Tapp.
Oui, il a participé. Je savais pas qu'il y avait des... Parce que c'était... Beaucoup dépeint dans la cinématographie américaine. C'est une bataille parce que l'Italie est comme très planche avec une chaîne de montagnes au centre. Mm-hmm. Le Monte Cassino, c'est un abbaye qui avait été construit vers 530 après Jésus-Christ. Il y avait près de 1500 ans. La bataille va durer du 17 janvier au 19 mai 1944. 150 000 soldats de chaque côté vont s'affronter pour une 50 000 du côté des Alliés qui vont être blessés ou décédés durant cette campagne. L'abbaye était au sommet. Les Alliés essayaient de le prendre sans le détruire parce qu'il y avait une valeur historique tellement grande. Puis malheureusement, dû aux nombreuses pertes humaines, les Alliés vont finir par craquer, ils vont bombarder l'abbaye, le détruire, presque rasé. Donc c'est ça, je ne savais pas qu'il y avait de soldats et dans le témoignage de Willie Tapp, on peut voir qu'il était il participait à la bataille de Monte Cassino. Je suis sûr que les gens, les auditeurs vont sûrement avoir des images de cette abbaye. C'était tellement repris dans les films, c'est incroyable.
Donc Monte Cassino était une étape sur la route de Rome. On dit que tous les chemins mènent à Rome. Ça a été le cas pour ces soldats-là et ça a été la chute de Rome en juin.
Oui, le 4 juin, Rome va ouvrir sans bombardement, sans destruction.
Est-ce qu'on a fait encore attention à cause de la valeur historique des monuments de la ville?
Il y a des moments de lucidité chez les militaires parfois. Dans ces types-là, comme on peut penser, il y a lui qui était responsable de la ville de Paris, Adolf Hitler, il avait demandé de raser la ville avant de quitter. Puis il a mentionné « Je ne serai pas l'être humain dont l'histoire va se souvenir comme étant la personne qui a détruit Paris. » Donc, c'est ça, nos soldats canadiens se retrouvent à Rome pour une permission et M. Charles Bouchard vit quelque chose d'exceptionnel. Je le cite. « Nous profitons bien de ce repos bien mérité pour nous débarbouiller et nous remettre de la fatigue des derniers mois. On nous avait donné un congé d'une journée pour visiter un peu la ville de Rome et surtout le Vatican. Le 22e, le Royal 22e Régiment, auquel j'étais attaché, se vit conférer les honneurs de remplacer la garde suisse pour une semaine parce que le Vatican est gardé par... »
Un pays neutre.
Puis... ces gardes suisses, qu'on appelle aussi les zouaves pontificaux. Cet honneur nous fut accordé parce que notre régiment était le seul de la religion catholique de la 8e armée. Nous, les Canadiens français, n'étions pas peu fiers, car ce même régiment avait gagné la Croix de Victoria à la Caesar Berardi avec le célèbre capitaine Paul Triquet.
Pendant qu'ils étaient à Rome, les soldats habitaient chez l'habitant.
Eh oui, parce que M. Charles Bouchard, dans son livre, nous parle de la famille Benilly, qui, eux, vont l'accueillir dans une famille avec les enfants, avec les grands-parents. Il y avait eu la permission que plus ça allait et plus les Italiens étaient vraiment positionnés du côté des Alliés et non, il y avait plus...
Ils se sont peu fait imposer cette guerre-là, eux aussi.
Ben, ils étaient avec l'Axe, ils étaient avec l'Allemagne, mais ils ont capitulé très tôt dans la bataille. Il restait quand même des fascistes qui se battaient, mais eux, ils vont être accueillis. Puis, ils nous parlent de la grand-mère qui était la nonna, les deux enfants, Paola et Vittorio. Puis ils disent que c'était pas le grand confort, mais c'était beaucoup mieux de coucher dans la boue.
Oui, puis il y a le réconfort d'être entouré d'une famille aussi, un peu un semblant de normalité.
M. Bouchard va tellement être touché par ça qu'il va retourner en 79 visiter des lieux dans lesquels il a passé en Italie 34 ans après le fait. Puis il va revoir des gens, puis il va même établir une correspondance sur la même période de temps, 30-40 ans, avec des familles italiennes qu'il a connues.
C'est dire comment ça l'a marqué.
Ça a créé des liens indélébiles parce que, justement, cette espèce de solitude qui est comblée par l'environnement familial, puis... Pour avoir vécu très près d'Italiens quand j'étais à Montréal, il y a un petit quelque chose entre les Italiens et les Gaspésiens.
Oui, puis je pense aussi que le fait qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver demain, ça doit aider les soldats à se livrer un peu plus à ces amis-là, ces familles-là, parce qu'on ne sait pas si on va être encore en vie la semaine prochaine. On ose un peu plus peut-être se confier.
Probablement aussi parler de choses très simples comme dans les référents, parler de sa mère, comment est-ce qu'elle est, c'est son père, ses frères, ses sœurs qui sont... des éléments qui eux, vivent...
Chanter du Sinatra.
Peut-être!
On a parlé que l'Italie était découpée en partie par toutes sortes de lignes et il y en a une dont on n'a pas parlé vraiment, c'est la ligne gothique.
C'est dans le nord de l'Italie, puis c'est sur le long des Apennins, chaîne de montagne en Italie, où ce que les Allemands vont poser leur dernière ligne de fortification afin d'empêcher les Alliés d'avancer. Et là, on rencontre un nouveau Gaspésien.
Ben oui, un petit nouveau.
Un petit nouveau. De son nom complet, Joseph-André-Paul Mimo, qui était natif de Rivière-Madeleine, juste à côté de chez nous, à Grande-Vallée, et qui va participer à ça. Et pour sa participation à la Deuxième Guerre mondiale, il va recevoir médaille et décoration, étoile 39-45, étoile d'Italie, étoile France-Allemagne, médaille canadienne des volontaires, puis médaille de guerre 39-45.
Très décoré.
Et je pense que t'avais comme une médaille par campagne là, quand tu y avais participé, en fait, d'avoir survécu. Donc c'est ça, lui, il va arriver pour la première fois sur la ligne gothique. Ça va être son baptême du feu. C'est une ligne qui a 16 km de profondeur, plein de barbelés. Puis là, c'est les derniers retranchements allemands, puis ils veulent pas perdre. Parce que là, c'est la
fin. C'est
très
stratégique, là.
C'est ça. S'ils reculent à l'arrière de ça, c'est la fin de la campagne italienne. Ça va durer du 28 août au 17 décembre 1944. Il y aura plus de 100 000 blessés et décédés durant cette dernière vague. C'est les troupes d'élite allemande qui vont être placées, les paratroopers, les parachutistes, des gens qui viennent de l'aviation.
Mais on a vraiment mis les derniers efforts là, j'imagine, aussi pour éviter de se faire prendre la ligne.
C'est ça, parce que c'était la fin. Pas longtemps après, ça va être effectivement
la capitulation.
Fin. Exactement. Je reprends les mots de M. Mimo qui nous dit « Moi, quand je prenais des prisonniers, les mains en l'air, évidemment. Il y en a qui pleuraient et d'autres qui parlaient de leur famille. Il y en a qui les faisaient courir. Probablement une espèce de punition pour toute la durée de la campagne d'Italie. Mais pas moi. Une fois qu'ils étaient armés, il n'y avait plus de danger. Quand j'étais à l'hôpital en Italie, il y avait 3 soldats, un caporal et 2 soldats. Et les deux m'ont demandé si j'aimais ça, la guerre. Je leur ai répondu que non. Ils m'ont dit « Pourquoi es-tu venu ici alors? » Je suis resté leur bête. Je n'ai pas été capable de leur répondre. Un général, un haut gradé allemand, m'a dit après la guerre « Vous, les Canadiens, on s'est battus contre vous autres. On a perdu. On est vos prisonniers, mais on vous aime. »
Qu'est-ce qui s'en vient avec nos troupes gaspésiennes quand on commence à sentir que c'est la fin de la guerre? Là, c'est à quelques semaines de finir.
Pour ce qui est de la campagne italienne, en février 1945, les troupes du Royal 22e Régiment vont être réaffectées en Hollande parce que la bataille se poursuit encore dans le nord de l'Europe.
Moi, je disais quelques semaines, mais plutôt quelques mois.
Exactement. Donc, c'est pour eux, la campagne d'Italie est terminée. Mais ils vont aller combattre encore en Hollande, puis légèrement passer la frontière allemande.
Notre cher ami Gustave Bernacchi, lui, avait été blessé aussi pendant ces batailles-là.
C'est justement parce qu'il y a eu comme une espèce de pause, puis il va revenir, mais peu de temps avant d'être démobilisé vers la Hollande. Et bien sûr, dans le prochain épisode, on suivra encore son parcours, ainsi que plein d'autres soldats gaspésiens. Je voudrais mentionner un des derniers décédés dans le mois de janvier, René Castillou, le frère de Raoul Castillou, qu'on n'a pas encore parlé, mais c'est parce que monsieur Marcel Castillou m'a écrit sur le site de Radio Gaspésie, sur le Facebook de Radio Gaspésie, pour me parler que son père avait fait le débarquement de Dieppe et il avait été fait prisonnier et il m'a donné une quantité phénoménale d'informations. Je pense qu'on va faire une petite capsule à la fin.
On pourrait faire une capsule bonus avec les questions du public.
Exactement. Donc, René Castillou, natif de Newport, lui, va mourir, si je me souviens bien, en janvier 1945. Mais pour le mot de la fin, on le laisse à M. Fabien Sinette, qui nous parle de son cousin, David Moran, qui, lui, va avoir participé à la campagne, à la bataille de Dunkerque. Je ne savais pas qu'il n'y avait aucun Gaspésien qui avait participé à la bataille de Dunkerque, mais qui va aussi participer à la campagne d'Italie, puis il va nous parler un peu de ce qui se passe avec... Qu'est-ce qui s'est passé avec lui.
Fait qu'un groupe de 32 jeunes de Gaspé ont décidé de s'enrôler. Les autres, je pense que c'était le 11 septembre, tout début de la guerre. Et puis ces gens-là sont enrôlés assez vite. Et puis ils ont parti après l'enrôlement, je pense qu'ils sont partis pour Québec, je pense 2 semaines après. Puis en décembre, ils ont traversé Outre-mer, en décembre 39. Fait qu'il y avait un de mes cousins, lui, il venait juste d'avoir 18 ans. Il demeurait voisin de chez nous. Et puis, je me rappelle le matin quand il a pris le train. Le train partait le matin à 6 heures à cette époque-là, pour avec tous les autres soldats des Gaspés. Fait qu'il avait arrêté de nous voir. Et puis, il avait cogné à la porte le matin. Mon père n'a pas allumé son poêle. Et il a demandé pour moi si j'étais couché. J'étais couché, mais j'étais réveillé. Fait que je me suis levé. Bon, bien, il dit, avant de partir, je vais te laisser un souvenir. Fait qu'il m'avait laissé une petite photo. Il y avait l'uniforme à ce moment-là, encore de la guerre 14-18, parce que les uniformes n'étaient pas encore fabriqués. Sur la photo, il y avait cet uniforme-là. J'ai toujours gardé la petite photo. Et finalement, ce régiment-là a rentré en action assez vite. On les a envoyés en Italie, au départ. C'est en Angleterre, disons. Et de l'Angleterre, à un moment donné, la première expérience de combat, c'est qu'ils ont envoyé à Brest. Fait qu'ils étaient pris, les autres, dans l'affaire de la plage à Dunkirk. Là. Ils ont fait un film, c'est ça. Malheureusement, ils n'ont jamais mentionné les Canadiens dans le film, mais il y avait ce régiment-là qui avait participé à Dunkirk, là, qui ils ont tué, évacué, parce que c'était en 1940, juin 1940, et les Allemands avaient envahi la France. Fait que c'était probablement le premier régiment de Gaspé qui a connu vraiment l'action. Là. Après ça, ils sont allés en Sicile. Et lui, finalement, Dave, il s'appelait Dave Moran, mon cousin. Lui, il s'est fait tuer dans un village pas loin de Ravenne. Il est enterré dans le cimetière de Ravenne. Ce qui était arrivé, les autres, la guerre, il restait peut-être un mois ou deux en Italie, parce que ce groupe-là, ce régiment-là, allait après ça en Hollande rejoindre les autres Canadiens qui étaient là. Il y avait un système, les autres, pour escorter les prisonniers allemands au Canada. Ils tiraient la courte paille. Fait que ça voulait dire qu'il y avait un mois de congé, puis ils vous envoyaient à leur famille au Canada. Pour eux autres, c'était extraordinaire, après avoir combattu toute la campagne d'Italie. Parce qu'ils sont rendus en février, c'était en février. Février, c'était pas mal sur la fin. Fait que c'est lui qui avait gagné, en tout cas, la courte paille pour escorter les prisonniers allemands. Fait que là, il a dit à ses amis, « Bon, mais je m'en irai pas de même. » Il dit, « Je vais me faire... » J'ai remarqué qu'il y avait un barbier dans le village. Il dit, « Je vais me faire couper les cheveux. » Parce que le lendemain, il s'embarqua dessus le lendemain pour le Canada. Puis quand il est arrivé là, en mettant la main sur la porte, il y avait un obus qui a tombé sur le salon de barbier, qui a tout détruit, puis il s'est fait tuer là.
Il pensait que la guerre était finie.
Puis il s'en allait chez lui, puis voilà. Puis ce qui arrive, ils l'auront envoyé en Europe après, par exemple. Ils l'auront envoyé en Hollande, c'est sûr. Mais au moins, il a revu ses parents. Hein, il avait juste 20 ans. Il avait 21 ans. En tout cas, tout et partout, sur les 32 qui s'avaient enrôlés dans ce régiment-là, il y en a 6 qui s'est fait tuer. Quand même pas beaucoup pareil pour toutes les batailles. Ils ont passé en travers. Sicile, t'arrives à Ortona, t'arrives à Casabaradi. Ils ont eu des batailles assez sévères. Hein.
C'était une campagne super dure en Italie.
C'était dur, certain. Les autres, ils étaient dans un régiment d'artillerie. Mais tu avais le 22e régiment qui était là aussi, comme le soldat que je parlais tout à l'heure. Lui, il était dans le 22e. Mais les autres étaient un régiment d'artillerie, une 57e batterie de 1ère division anti-tank. Pour Gaspé, la plupart, c'était l'artillerie. Parce que la réserve à Gaspé était l'artillerie. Moi, j'avais deux de mes frères, en réalité. Ils sont enrôlés dans l'artillerie. Il y en a un qui a fait de l'invasion de Normandie, puis l'autre s'est fait blesser avant en entraînement.
C'est vrai qu'à Montjoly, eux autres, il y a eu plusieurs pilotes à Montjoly.
Oui, par rapport à l'aviation, eux autres là-bas, eux autres, ils ont mis l'accent sur l'aviation pour la bataille de Saint-Laurent. Hein. Les avions de combat étaient là, ils n'étaient pas à Gaspé. À Gaspé, c'était les Catalina qui faisaient la patrouille. Hein,
ah oui, parce qu'il y en avait quand même plusieurs dans la baie de Gaspé, des Catalina,
oui. Il y en avait une dizaine, je crois, en tout et partout. Il y avait leur base à Saint-Neuville, leur base navale. Là, puis,
il y a une magnifique photo de
M. Tate. Oui. Ouais. J'ai eu l'honneur de rencontrer aussi Ian Tate. Fait que ça m'a fait de la peine de ne pas pouvoir. Parce que je l'avais rencontré au musée. Il y avait eu une exposition au musée, puis il avait venu là. Puis finalement, il y a quelqu'un qui m'a dit que le type là-bas, il dit c'est Ian Tate. Moi, j'avais vu Ian Tate dans le livre là, sur la bataille de Saint-Laurent. Ben, je suis allé le voir, je me suis présenté, puis j'ai dit ça que j'aimerais passer une entrevue avec lui. Il dit oui, il dit je suis encore ici pour une journée. Il dit ça me ferait plaisir. Il dit intervieweur, puis caméra, puis je serai prêt. J'ai jamais été capable de trouver personne. Ça se trouvait la fin du travail. Tout le monde est en congé. Ben, j'ai pas pu trouver personne, malheureusement, j'ai manqué mon entrevue. Parce qu'il était bien ouvert. Là. Il a fait une grosse collection, il m'a dit, de photos de la marine. Pas juste de Gaspé, là, en général. Puis il a donné ça à son fils. Son fils était un officier supérieur de la marine. Il avait continué les traditions. Donc, il a tout légué ça. Donc, il y a plusieurs albums. Ça aurait été intéressant, surtout à Gaspé. Là. Moi, j'en ai récupéré quelques-uns à Gaspé par un des premiers marins qui est arrivé en 1941. La première base navale en 1941, c'était sur la Pointe-aux-Voix. Lui, il avait arrivé après un premier bateau converti. C'était des yachts convertis. Puis il était sur le Lynx, il appelait. J'avais passé une après-midi avec lui. Il avait venu en vacances à Gaspé. Puis en 2000 ans, je pense en 2000 ans. 2000 ans. Il m'avait donné un album de photos qu'il avait pris à cachette. Là, qu'il n'avait pas le droit de prendre de photos. Puis ses enfants ne s'intéressaient pas à ça. Il dit, si tu veux les avoir, je vais te les donner.
Merci à Monsieur Sinette pour ce témoignage de son cousin, en fait, David Moran. Et Félix, il fait partie des derniers Gaspésiens qui ont perdu la vie à la Deuxième Guerre mondiale.
Il est le dernier Gaspésien sur la campagne italienne. C'est le dernier en février 1945. Il sera inhumé en Italie, dans un cimetière militaire canadien. Puis il sera un des 6000 morts canadiens qui auront perdu la vie durant sa campagne d'Italie, une des plus dures pour l'armée canadienne dans son histoire. Puis il y aura aussi 26 000 soldats qui seront blessés durant cette campagne qui aura duré près de 26 mois.
Félix, merci de nous avoir fait découvrir ou encore redécouvrir cette bataille d'Italie, mais surtout de nous avoir fait découvrir ces soldats gaspésiens avec des vécus uniques et qui méritent amplement qu'on se rappelle de leurs actions.
C'est un voyage magnifique à travers chacun de leurs témoignages. Merci à toi, Émilie.
La guerre vue d'ici, la participation gaspésienne à la Deuxième Guerre mondiale est une production de Radio Gaspésie avec le soutien financier du Fonds canadien de la radio communautaire. À la recherche et à l'animation, Félix Fournier. À la réalisation et à l'animation, Émilie Gagné. Un merci particulier aux historiens et passionnés d'histoire, Fabien Sinette et Tom Eden. Merci aux familles, proches et descendants de ceux et celles qui ont participé à l'effort de guerre pour leur témoignage. Pour plus d'épisodes et d'informations, visitez le radiogaspésie.ca dans la section « Podcast ».